On va chercher la présence de Dieu en premier. Parce que sans sa présence, on ne peut rien faire. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez des besoins ce matin? Je pense que chacun d'entre nous en a des besoins. On va les déposer aux pieds du Seigneur. Je crois que c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas d'avoir un grand discours, mais c'est de toucher le cœur de Dieu. C'est la chose la plus importante quand on vient dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous voulez que ce matin, Dieu vous parle? C'est un désir au fond de nos cœurs. Si on le veut, on entendra sa voix ce matin, à travers sa parole. Sa parole est puissante. Sa parole est vraie. Donc il suffit simplement de dire « Seigneur, si tu es là, et je sais qu'il est là, parce qu'il dit quand deux ou trois sont rassemblés dans sa maison, il est là, il est présent. Et nous savons qu'il est là. » Imaginez un peu Dieu en personne qui est là. Est-ce qu'on arrive à l'imaginer cela? Est-ce qu'on arrive à considérer que ce Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel, la terre, l'univers et toutes choses, il est là présent avec nous aujourd'hui? On va mélanger la prière avec la foi. On va croire que Dieu est là. On va croire aussi que Dieu peut répondre à nos besoins les plus profonds. Il sait, il connaît, il nous connaît. Il sait même avant qu'on soit né. Et jusqu'à aujourd'hui, il sait ce qu'on a subi, ce qu'on a, par où on est passé, des difficultés énormes ou moins. Il sait toutes choses. Alors on va déposer tout ça aux pieds du Seigneur ce matin. Parce qu'il n'y a que lui qui peut guérir au plus profond de nous-mêmes. Nos frères et sœurs peuvent être là. C'est beau, c'est magnifique d'avoir une famille, d'avoir une église, d'avoir un corps. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y en a qui sont seuls. Nous, on a nos frères et sœurs. C'est magnifique. Mais avoir une réponse de Dieu au fond de nous, c'est la chose la plus extraordinaire. Et quand on sent la présence de Dieu, quand on sait qu'il est là, qu'il est présent et qu'il peut répondre à nos besoins, alors là, il n'y a pas de mots. Donc on va prier. On va déposer nos cœurs devant lui. Et chacun d'entre nous, on va lui demander de répondre à nos besoins. Parce que lui peut le faire, parce que lui sait, lui connaît. Père Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, tu connais aussi nos cœurs, tu connais aussi nos besoins au plus profond. Et on veut te déposer ce matin nos cœurs devant toi, Seigneur. Et on va mélanger la prière avec la foi, croire que tu es là et que tu entends nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance de la parole. La parole, c'est une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. Dieu a une puissance qu'on n'arrive pas à réaliser. Dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toutes bonnes œuvres. Vous voyez, la parole, hein, c'est une puissance qui peut enseigner, qui peut convaincre, qui peut redresser les choses qui sont tordues, qui peut éduquer dans la justice. La puissance de la parole de Dieu. Donc toute écriture est inspirée de Dieu. Est inspirée de Dieu. On a besoin de savoir que quand on lit la Bible, c'est Dieu lui-même qui a écrit la Bible. inspiré par nos frères, plus de 40 auteurs qui ont écrit la Bible, mais inspiré par Dieu. Dans 2 Pierre 1 au verset 20, tu peux le lire ? Il a une belle voix qui porte.
Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
Amen. Vous entendez bien ?
Oui.
C'est une voix qui porte, c'est bien. Donc on va voir 7 aspects de la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'on a besoin, est-ce que vous avez besoin d'une plénitude du Saint-Esprit ? Est-ce que vous avez besoin que le Saint-Esprit se révèle à l'intérieur de vous ? Je crois qu'on a besoin. Des fois, on dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Vraiment, des fois, je me dis « Seigneur, sans toi, mais je ne peux plus rien faire. Si tu n'étais plus là, mais qu'est-ce que je ferais aujourd'hui ?» Donc, il faut avoir cette faim au fond de nous, cette soif de le connaître, cette soif de vouloir que le Saint-Esprit puisse nous parler aujourd'hui. Et je sais que dans ces 7 points, vous allez peut-être vous retrouver. Alors, essayez de capter cela. Soyez attentifs à la parole ce matin. Alors, le premier point, c'est « il témoigne ». Est-ce que tu peux lire dans Actes 4, versets 32 et 33 ?
« La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. »
Amen. On voit que le corps de Christ était vraiment uni. Ils étaient ensemble. Il n'y avait qu'une voix, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Et on doit avoir ce cœur-là. Ce cœur d'être ensemble, réunis. Avoir ce même cœur les uns avec les autres. D'abord, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes de Dieu. On a besoin que ce Saint-Esprit puisse révéler à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que si je vous pose une question ce matin, est-ce que vous savez que vous êtes un enfant de Dieu ? Qui c'est qui vous l'a révélé ? C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes un enfant de Dieu ou pas. Donc il se révèle, Le Saint-Esprit se révèle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains 8 au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Moi, je sais que je suis un enfant de Dieu, pas parce que je suis bon ou mauvais, mais parce que un jour j'ai accepté Jésus. Et l'Esprit de Dieu, avec mon esprit, il me rassure, il m'assure que je suis un enfant de Dieu. 1 Jean 5 au verset 10, tu peux le lire ?
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.
Amen. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Donc on a ce témoignage en nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça produit tout cela ? L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et ça produit, on a une certitude. Une certitude se crée en nous que nous sommes des vrais enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dit cela, tout simplement. Il ne faut pas chercher à comprendre certaines situations, mais on est des enfants de Dieu, on a une certitude. Mais son témoignage est basé sur la parole de Dieu qui a créé précisément dans ce but, afin que le témoignage du Christ au travers de nous. Et à ce moment-là, du moment où on sait qu'on est un enfant de Dieu, on a un témoignage autour de nous. On produit un témoignage autour de nous. Je sais que mes voisins savent que je suis chrétien. Voilà, on doit produire, on doit émaner autour de nous la plénitude de Dieu, la présence de Dieu. Dans Jean 15 au verset 26, tu peux le lire, et 27.
Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement.
Amen. Donc ce témoignage va venir d'office, automatiquement. Pourquoi ? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Automatiquement, on va produire un témoignage autour de nous. On sera différent. Tiens, toi, tu es différent des autres. J'ai ma voisine, la voisine du bas, elle avait besoin de faire un double de son portail. Elle était en train de bricoler son portail et tout. J'arrive et je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Oh ben, j'arrive pas, j'ai fait une clé, mais elle fonctionne pas. Alors, j'essaye aussi, elle fonctionnait pas, en effet. Je dis, vous l'avez fait où? Elle me dit où elle l'a fait. Je dis, écoutez, je vais y aller. Elle me dit, mais comment vous allez y aller? Ben, je dis, oui, je vais y aller, refaire cette clé. Elle me dit, bizarre. Mais qui vous êtes? Je dis, ben, je suis le voisin du dessus. Et voilà, je suis. Et elle était étonnée que je puisse lui rendre service. Donc j'ai été en fin de compte trois fois, parce que la première fois ils ont relimé un peu, ça marchait pas. Deuxième fois ils l'ont relimé, une troisième fois ça marchait pas. Du coup j'ai pris une autre clé de mon voisin, et j'ai refait une troisième clé, elle a marché. Alors elle était toute étonnée, mais comment ça se fait que vous avez pris du temps et tout ça pour moi quoi? Vous me connaissez pas plus. Donc on doit être un témoignage vivant autour de nous, un vrai témoignage. Ok. Deuxièmement, il produit en nous les fruits de l'Esprit. Bien sûr, vous connaissez le passage. Les fruits de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus, résumé dans 9 mots. Tu peux le lire, Galates 5, 22 et 23.
Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses.
Amen. Donc voilà, ça c'est les fruits de l'Esprit qu'on doit porter. D'accord ? Est-ce que maintenant on a ces fruits de l'Esprit ? Je les répète. Mais dans ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tu peux dire, ah ben ça c'est moi. Qui c'est qui peut dire cela? Ah ça, mais c'est exactement moi ça. C'est incroyable. Je me reconnais. Waouh! Hein, il n'y a pas beaucoup de monde hein, qui se manifeste. Mais c'est moi ça. Et pourtant, ça doit être nous. On doit rechercher ces choses-là. Hein? Un homme non rempli de l'amour de Jésus n'est pas rempli de l'Esprit, quelles que soient ses prétentions. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous aimons Dieu de tout notre cœur, notre prochain comme nous-mêmes. Ça doit être notre but. Et si on n'a pas ces fruits, on doit les rechercher. Et on doit prier pour cela. Seigneur, j'ai un manque d'amour. Donne-moi ton amour, Seigneur. J'ai un manque de patience. Donne-moi ta patience. Il en faut de la patience, hein? Hein? Des fois, dans certaines situations, hein? Oh là là, Seigneur. J'ai besoin de ta patience, mais de la tienne, pas de la mienne. La mienne est limitée. Et celle de Dieu, elle est illimitée. Donc on doit la rechercher. La paix. Ce monde recherche la paix. Il fait tout pour avoir la paix. Et nous avons la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. On a la paix de Dieu. Et si on ne l'a pas, on doit la réclamer. Elle est à nous, elle nous appartient. Vous savez, ces fruits-là, ils sont à nous. Du moment où on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il nous les a donnés. Il suffit simplement. Vous savez, c'est comme des tiroirs. Il y a 9 tiroirs, et aujourd'hui, j'ai besoin d'amour. On prend le tiroir de l'amour, et on s'en saisit. Hein? Dans tous les cas, c'est la même chose. Toutes les promesses de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a plus de 8420 promesses, quelque chose comme ça. Et chaque promesse, ils nous appartiennent. Et on doit prendre une promesse chaque jour et s'en saisir. Ok ? Un homme non rempli de l'amour de Jésus n'est pas rempli de l'Esprit. Hein? Donc on a besoin d'être rempli de l'amour de Jésus. Matthieu 22, 37, 38 et 39. C'est bien, hein?
Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Amen. Vous savez, il suffirait que ces deux commandements, pas beaucoup, que ces deux commandements et le monde entier serait différent. Il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus besoin d'armée. Il n'y aurait plus besoin de tout cela. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, hein, et de toutes tes pensées. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est tout. Pourquoi chercher? Tu sais, on complique des fois la parole de Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, avant toute chose. Et si tu aimes ton cœur, ton Dieu avant toute chose, alors ça va découler des fruits autour de toi. Tu aimeras ta femme, tes enfants, ton mari, etc., etc. Tout va se... comment on peut dire? S'aplanir, il y a un autre mot, ça va émaner, voilà, émaner autour de nous l'amour de Dieu. Troisièmement, il crée une communion. Dans 2 Corinthiens 13, au verset 13, je vais le lire, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Wow. C'est un beau verset, moi, je trouve. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et la communion, c'est le terme en grec, c'est partager. Partager ensemble. Hein? On a, on donne. On a, on reçoit de Dieu et on donne. Vous savez, c'est comme une eau, hein, qui vient de la montagne. Elle coule et elle va se verser à la mer. Et cette eau, elle est toujours bien fraîche. On a besoin de cela. On a besoin de prendre de Dieu. On reçoit et on donne. On prend de Dieu, on reçoit et on donne. C'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut faire. C'est de donner ce qu'on reçoit. L'Esprit, en nous remplissant, crée une communion intense avec ce Dieu vivant, ce Dieu qui est en nous. Ça crée une communion intense. On a besoin de cette communion intense. Nous partageons tout avec Dieu. Dans 1 Jean 1, au verset 7. Tu veux le lire ?
Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Amen. Si nous marchons, si lui est lumière et que nous marchons avec la lumière, nous devenons lumière. C'est pas compliqué, hein? Quelle décision on veut prendre? Est-ce qu'on veut marcher dans les ténèbres ou dans la lumière? Non. On refuse de marcher dans les ténèbres. Je veux marcher dans la... Il faut qu'on prenne une décision chaque matin, déjà le matin. Seigneur, aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Je veux marcher dans la lumière. Je veux être la lumière. Et si on décide déjà le matin, alors Dieu va préparer les choses dans la journée. Et on va être étonné de ce que Dieu fait dans nos vies. Alors, 1 Jean 2 au verset 2 et 3.
Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ.
Il parle de cette communion. Cette communion qui veut dire partage, partager. On a besoin de recevoir, mais de donner. On a besoin de donner autour de nous. C'est un besoin qu'on a en tant que croyant. Quand on voit que des gens ont besoin, eh bien on est là, tout simplement. Et ça devient naturel. Nous partageons la vie de Christ ensemble. Comme dans Actes 4, verset 32. Tu veux le lire?
La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. Mais tout était commun entre eux.
Donc on a déjà vu ce verset au départ, mais ils étaient un seul cœur, une seule âme, un seul désir, c'est de connaître Christ et de faire connaître Christ. Est-ce qu'on a ce désir au fond de nous? Est-ce qu'on a cette envie, Seigneur, je veux te connaître, mais je veux te faire connaître autour de moi? Corinthiens 3, de 3 à 4. Tu veux le lire?
Parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes?
Donc c'est là qu'on va avoir le discernement. Qu'est-ce que je vis? Est-ce que je vis dans les disputes? Est-ce que je vis dans une amertume au fond de moi, pour un frère, pour une sœur, pour quelqu'un? C'est là où on va discerner qu'on ne vit pas dans la présence de Dieu. C'est là où on discerne qu'il faut que je fasse quelque chose quand même. Il faut que je me repente. Parce que des disputes, il y en a dans le corps de Christ, et c'est ça qui est dommage. On a besoin de réaliser qui je suis. Et est-ce que ma vie sert à d'autres? Ou alors, où est-ce que je produis des disputes autour de moi? Et le fait de discerner que quand on se dispute, on est dans la chair. C'est ce que l'apôtre y dit. Hein. On va lire aussi dans 1 Jean 2, au verset 9 à 11. Tu veux le lire?
Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière.
Amen.
Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Amen. Alors, qu'est-ce qu'on décide ? De marcher dans les ténèbres ou dans la lumière ? Dans la lumière, n'est-ce pas ? Qui veut marcher dans la lumière ? C'est une chose déjà, on doit, même si c'est difficile, on sait que c'est difficile, mais on le veut au fond de nous. Seigneur, j'y arrive pas, j'ai quelque chose qui m'empêche, tout cela, mais je le veux, dans nos tripes, au fond de nous. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur sait, connaît nos cœurs. Il va faire en sorte que tout s'aplanisse et que cette communion avec Dieu revienne. Quatrièmement, il intercède. J'aime bien que le Saint-Esprit intercède, qu'il vienne à notre secours. Parce que des fois, on a des difficultés. Et il est là, il est présent. Il prie pour nous, dans Romains 8, au verset 26.
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, lui, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Et parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Donc ça, c'est un grand privilège qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. C'est que le Saint-Esprit intercède pour nous. Dans nos prières. Des fois, on prie, on ne sait plus quoi dire. Et le Saint-Esprit, hop, il nous révèle quelqu'un, un couple qui ne va pas, une famille, etc., etc. Et on voit que le Saint-Esprit est là et il nous aide. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, on a besoin que ce Saint-Esprit, on a besoin de savoir, premièrement, que le Saint-Esprit est là. Et qui peut intercéder. Donc, on a un deuxième avocat. Vous saviez qu'on avait un deuxième ? On a un premier, mais un deuxième avocat ? Dans Jean 14, au verset 16, 17. Tu veux le lire ?
Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous.
Amen. Mais quelle grâce on a. Je ne sais pas si on imagine ça, d'avoir le Saint-Esprit en nous. Il est là, il est présent, il est constamment avec nous. On peut l'attrister par nos péchés, par nos fautes, hein, mais on peut aller devant Dieu. On voit dans 1 Jean 2 au verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, vous avez un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. » Donc il y a toujours un moyen. Ne restez pas pendant des semaines dans une tristesse qui vous accable. On peut comme ça être rétabli dans la communion du Seigneur. Et du moment où on est rétabli, on laisse derrière et on va à l'avant. On marche avec lui pleinement, dans sa confiance. Je n'ai pas de mots, des fois je n'arrive pas à exprimer ce qu'on a reçu de Dieu. C'est tellement, on a des mots tellement petits, on n'arrive pas à, mais si on imaginerait ce que Dieu fait pour nous et ce qu'il a fait. Un matin, je me lève. Il était 2-3 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir et j'ai commencé à prier. Et tout d'un coup, la présence de Dieu est venue là. Vous savez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, je n'osais même pas parler ou quoi que ce soit. Je savais qu'il était là. Et j'arrivais même plus à me contenir. Je dis, Seigneur, va doucement. Doucement. Et c'était... C'est quand on est dans la présence de Dieu, on n'a besoin de rien. Tout est comblé. Tout est... Vous savez, on est là, on est dans la présence de Dieu. On n'a besoin de rien. Wow. J'imagine, quand on sera dans le ciel, qu'on sera tous les jours dans la présence de Dieu. Heureusement qu'on aura un nouveau cœur, un nouveau corps, un corps spirituel, parce que notre corps charnel, il pourrait éclater. Notre cœur pourrait éclater, tellement que la présence de Dieu est là. Vous savez, des fois, des païens, ils disent « Oh, mais moi, je vais le rencontrer, Dieu, je vais lui dire deux mots. » Quand il sera dans la présence de Dieu, est-ce que vous pensez qu'il va avoir le courage de dire quoi que ce soit? Je ne crois pas, hein, parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose. Être dans la présence de Dieu, c'est... J'arrive pas à le définir, mais c'est glorieux. C'est puissant. Cinquièmement, il nous enseigne. Dans Jean 16, au verset 14 et 15.
Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera.
Ce verset est très puissant. Pourquoi ? Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Oh ! Mon ami, hein. Est-ce que vous arrivez à imaginer que tout ce que le Père a, vous l'avez? On l'a? Il n'a pas dit vous l'aurez. Il dit on l'a. Donc moi, mais je le sens pas, j'arrive pas à le saisir, j'arrive pas à le. Ok, peut-être, mais tu l'as. Celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a aussi accepté son Saint-Esprit, il a accepté aussi la présence de Dieu, il a accepté aussi tous les dons que Dieu a. Il nous les a donnés. Ils sont à nous. Maintenant, c'est comme si vous recevez un héritage, un gros héritage, hein, de ma cousine d'Amérique. J'imagine, j'ai un gros héritage de ma cousine d'Amérique. Alors j'ai des maisons, des hôtels, plein de choses. Et c'est tellement... énorme pour moi et on va commencer à savoir qu'est-ce qui est à moi. Alors je vais aller sur place et on a peut-être un dossier avec tout ce qui est, et là le dossier pour nous c'est notre Bible. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? C'est quoi, ça sert à quoi les études bibliques? Ça sert à ça, à savoir ce que Dieu m'a donné. Et du moment où on rentre dans tout cela, on dit waouh, Dieu m'a donné cela, ça, ça. Il m'a donné une maison, un hôtel, une Porsche, etc. Pour ma femme, c'est pas grave, une Porsche. Moi, j'aimerais bien la conduire. Hein. Mais voyez, donc on doit rentrer dans tout ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu a, on l'a. Mais qu'est-ce qu'on a? Et c'est là où il faut commencer à étudier la parole de Dieu. Le but de tout son enseignement est de révéler le Seigneur Jésus-Christ et au travers de lui le Père. Il se sert surtout de la parole de Dieu pour faire, la Bible devient pour nous un livre lumineux. La Bible devient pour nous un livre lumineux. C'est là où on va apprendre ce qu'on a reçu de Dieu. Le sixième point, il nous dirige. Romains 8, versets 13 et 14.
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont Fils de Dieu.
Donc on a besoin, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si vous vivez selon l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Donc ça veut dire qu'on a une lutte. Chaque jour, on a des difficultés, on a des combats. Mais il a dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. On a besoin de rechercher l'Esprit de Dieu. Si on marche par l'Esprit, on ne marchera pas par la chair. Je dis, j'ai bien beau de le dire, je fais comme les autres. Hein, on se laisse avoir. Mais ça me fait penser à une petite histoire. Quand j'étais pâtissier, maintenant je suis maçon, c'est une chose différente. Je faisais des pains au raisin. Et pour faire des pains au raisin, on étale de la pâte, on met de la crème pâtissière, on met des raisins de Corinthe, hein, et on fait un boudin, un joli boudin. Et on partage, on prend les boudins, on les met à plat, on les fait lever. Une fois qu'ils sont levés, on les dore avec des œufs. Je vois, les appétits, c'est bientôt midi là. On les met au four et puis ça devient bien marron là. On mange ça, c'est délicieux. Donc j'étais en train de faire mes pains au raisin. Et puis, vous savez, quand on fait des boudins, les bouts, ils ne sont pas très jolis. Alors on les coupe et on les jette, hein, on peut pas... Et puis le pâtissier me disait, mais écoute, tu jettes chaque fois ce morceau-là, tu ne peux pas les rassembler tous les morceaux, tu fais un bout, tu les laisses lever, tu les mets au four et tu les emmènes chez toi. C'est dommage de les jeter parce qu'ils ne sont pas vendables, mais au moins tes enfants profitent. Hein. Je dis, oulala, non, moi je ne sors rien de. Là, non, moi je ne sors rien d'ici. Et chaque jour, il était là, en train de me répéter. Chaque fois, je coupais mes boudins, là. Mais regarde, c'est incroyable, tu jettes à la poubelle. Mais c'est... Puis après, il m'a laissé... Je me suis fait séduire, en disant, ouais, en fin de compte, peut-être qu'il aurait raison. Au lieu de les mettre à la poubelle, je les rassemble, hop, je les mets, et puis je les emmène chez moi. Au moins, mes enfants vont être contents de manger des bons pains au raisin bien frais, là. Et puis une fois, je l'ai emmené, donc j'ai emmené chez moi. Bon. Le lendemain, il commence à se préparer un gâteau d'anniversaire. Je dis, tu fais quoi là? Ben, je fais un gâteau d'anniversaire, là c'est mon anniversaire et je me fais un gâteau, mais tu dis rien. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, ben, et toi alors? T'emmènes tes pains au raisin, tu les emmènes bien chez toi? Oh punaise, je me suis fait avoir. Je dis, ok, d'accord, bon, pour ce gâteau, tu ne l'emmènes pas, d'accord? Mais là, vraiment, je me suis fait avoir. Eh bien, le diable, il est un peu comme ça. Hein. Il nous pousse. Oh, mais regarde, c'est rien. C'est pas grave, ça, si tu agis comme ça ou si tu fais ce péché, c'est pas grave. Et puis, à fur et à mesure, hop, on rentre dedans, dans ce péché. Et quand on y est, ah, regarde, tu es en train de faire. Et puis là, on est surpris, hein, parce qu'on est dans le péché. Alors là, on a deux solutions. Ou on se dit, c'est vrai, et être accusé par ce que le diable dit, parce que des fois, on dit que le diable, il est menteur, c'est vrai. Mais des fois, il dit la vérité. Quand il nous pousse au péché, puis après qu'il nous fait voir le péché, là, c'est vrai que là, bon, là on est coincé, on est dedans, quoi. Hein. Donc, on a deux solutions. Ou être condamné et puis rester peut-être pendant des semaines dans cette condamnation, ou alors reconnaître, dire c'est vrai, là j'ai fait une erreur. Là, comme j'ai dit, bon c'est vrai, j'ai fait une erreur, mais Seigneur, pardonne-moi Seigneur, je te remets mon péché devant toi. Et c'est vrai que j'ai fait une erreur, mais je viens devant ta face Seigneur, je dépose tout cela devant toi. Et c'est fini, et on continue. D'accord ? Ne pas se laisser condamner par ce que le diable peut nous dire. Alors, comme Israël fut conduit dans le désert par la nuée et de la présence de Dieu, ainsi nous devenons sensibles aux directions de l'Esprit quand il nous remplit. Pour nous guider, il se sert de trois moyens. Le premier moyen, c'est les Écritures. Si Dieu dit clairement une certaine chose dans la Bible, nous n'avons pas à chercher plus loin. Ça va, des fois, on se complique les choses. Mais on lit la Bible, Dieu nous parle à travers un verset. Eh bien, bon, c'est bon. Il t'a parlé. Arrête de... Voilà, Dieu t'a parlé précisément, alors ne cherche plus. Donc, dans les Écritures. Deuxièmement, dans les circonstances. Quant aux détails, Dieu se sert souvent des circonstances pour préciser sa volonté dans une situation particulière. Des fois, on a des situations particulières et Dieu, il est là. Il pose sa main dans cette situation. Et troisièmement, sa voix dans notre conscience, une conviction intérieure. Dans Actes 10, nous voyons que Dieu se servit de ces trois moyens pour diriger Pierre vers la maison de Corneille. Et quelle bénédiction ça a fait après, hein, pour le monde entier. Donc, on a besoin de ces trois moyens, hein, les Écritures, les circonstances et la voix intérieure dans notre conscience. Dernier point. Il nous qualifie par des dons pour le service de Dieu. Le Saint-Esprit veut surtout faire connaître le Christ au monde entier. Dans ce but, il agit de manière à révéler Jésus au travers de nous. Lui seul sait quelle est pour chacun de nous la meilleure façon de le servir. Dieu ne fabrique pas des hommes en série. Nous sommes un devant Dieu. Hein? Dieu a fabriqué des séries, on a tous les mêmes choses. Non, on est un. On a personne à la même voix, personne à la même ADN ou le même empreinte. Je cherchais le mot. Donc on est tous différents devant Dieu. Mais Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Je suis différent de mon frère ou de ma sœur, ok. Mais Dieu a un but pour moi. On doit se saisir de ce but-là. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Je suis peut-être différent des autres, mais tu as un but pour moi. Tu es une âme créée par lui et pour lui. Tu es un trésor de grâce. C'est beau ça, hein? Unique. À te confier pour lui seul peut te communiquer. Il n'y a que lui qui peut communiquer quelque chose à toi seul. Pas à ton voisin, mais à toi, il peut communiquer quelque chose de bien précis, selon tes besoins personnels. Aucun de nous ne peut servir Dieu par ses propres moyens. D'accord ? Nos moyens charnels, on ne peut pas le servir. On a besoin de le chercher, comme on a vu tout à l'heure, hein ? Chercher son esprit. La chair ne peut faire la volonté de Dieu, mais elle peut certainement tout gâcher. Moïse même a dû passer 40 ans d'humiliation dans le désert pour l'apprendre. Mais quand il est revenu à sa rencontre avec Dieu pour affronter la direction du monde avec rien d'autre qu'un vieux bâton à la main et la parole de Dieu dans son cœur, quel résultat, hein? Dieu peut se servir de notre petitesse pour faire de grandes choses. Donc, est-ce qu'on veut s'attendre à lui ce matin? Demandons donc à Dieu de te qualifier pour son service. Demande à Dieu de te qualifier pour son service. Et pour les dons, vous lirez à la maison parce que là on n'a pas le temps, mais dans 1 Corinthiens 12 et chapitre 13, vous lirez et vous verrez tous les dons que Dieu peut vous donner. Donc, demandons donc à Dieu de te qualifier pour son service. Amen. On va prier. On va se lever. Et on va vraiment demander à Dieu de nous qualifier. Il l'a déjà fait. Il nous a déjà tout donné. D'accord ? Comme on a vu, ce que Dieu a, on l'a. Ce que Dieu Jésus avait, on l'a aujourd'hui. C'est notre frère. La puissance que Jésus avait, on a cette puissance aujourd'hui de guérir, de bénir, d'imposer les mains. On a tout cela. Jésus, Seigneur, tu connais chacun qui est là, Seigneur, ce matin. Tu nous connais. Je fais partie d'eux aussi, Seigneur. Tu me connais. Notre désir, Seigneur, ce matin, c'est de te rencontrer, Seigneur. Aide-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, à déclarer notre foi autour de nous. On a besoin de prendre de toi, Seigneur, pour pouvoir donner. On a besoin de recevoir de toi, on a besoin de prendre pour pouvoir donner. Seigneur, je te demande une bénédiction à chacun ici. Donne-nous une révélation de toi, Seigneur. Donne-nous un réma de toi dans ta parole. Merci pour ta parole qui est puissante, qui peut transformer n'importe quel être humain sur cette terre. Père, merci encore. Et bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.